74. Dom était un homme âgé. Il récita les 253 syllabes de son nom sur un ton chantant. « En un sens, expliqua-t-il, c'est un résumé de ma biographie. Il raconte à l'auditeur ou au lecteur ou au censeur qui je suis, quel rôle j'ai pu jouer dans le tout, ce que j'ai pu réaliser. Depuis plus de 50 ans toutefois, je me fais simplement appeler Dom. Et lorsque la confusion avec d'autres Dom est possible, on peut m'appeler Domandio. Et dans mes diverses relations professionnelles, d'autres variantes encore sont utilisées. Une fois par an, pour mon anniversaire, mon nom entier est récité en esprit, comme je viens de vous le réciter à l'instant de vive voix. C'est très efficace, mais c'est personnellement assez gênant. » Il était grand et mince, à la limite de l'émaciation. Ses yeux profondément enfoncés étincelaient d'une étonnante jeunesse, démentant ses gestes lents. Son nez proéminent, étroit et long, s'évasait aux narines. Ses mains, malgré les veines saillantes, ne portaient nulle trace des atteintes de l'arthrite. Il était vêtu d'une longue robe grise, aussi grise que ses cheveux qui lui descendaient aux chevilles, et de sandales qui lui découvraient les orteils. « Quel âge avez-vous, monsieur ?» demanda Trévise. « Je vous en prie, Trève, appelez-moi Dom. L'usage de tout autre nom ou titre introduit un formalisme qui inhibe le libre échange des idées entre vous et moi. Si l'on compte en années légales galactiques, je viens tout juste de dépasser les 93 ans. Mais la véritable célébration n'interviendra pas avant de fort longs mois lorsque j'aurai atteint le 90e anniversaire de ma naissance en année Gaïenne. Je ne vous aurais pas donné plus de 75 ans, Dom, dit Trévise. Selon les critères de Gaïa, je ne suis remarquable ni par mon âge réel, ni par mon aspect physique, Trève. Mais, allons. Avez-vous terminé de manger ? Pellerade baissa les yeux sur son assiette dans laquelle s'empilaient visiblement les reliefs d'un repas particulièrement banal et sans attrait, et dit, embarrassé, « Dom, puis-je vous poser une question un peu gênante ? Si bien sûr elle vous paraît injurieuse, dites-le-moi, je vous en prie, et je la retirerai aussitôt. » « Allez-y. » Dom sourit. « J'ai hâte de vous expliquer tout ce qui, en Gaïa, peut éveiller votre curiosité. Pourquoi ? Dit aussitôt Trévise. Parce que vous êtes des invités de marque. Puis-je savoir la question de Pelle ? L'intéressé la posa. Puisque toute chose sur Gaïa participe de la même conscience collective, comment se fait-il que vous, un élément de ce groupe, puissiez manger ceci, qui en est manifestement un autre élément. C'est vrai. Mais toute chose se recycle. Il faut bien se nourrir, et tout ce qu'on peut manger, plante ou animal, et même les sels minéraux, fait partie de Gaïa. Mais là, voyez-vous, on ne tue jamais par plaisir ou par sport. Et on ne tue jamais en infligeant des souffrances inutiles. Et j'ai bien peur que nous ne fassions guère d'efforts pour mettre en valeur nos préparations culinaires, car aucun Gaïen ne mangera autrement que par obligation. Vous n'avez pas apprécié ce repas, Pelle ? Trève ? Eh bien, les repas ne sont pas faits pour être appréciés. Et puis, d'ailleurs, ce qui est mangé continue malgré tout à faire partie de la conscience planétaire. À partir du moment où ces éléments sont incorporés dans notre organisme, ils participent dans une plus large mesure à la conscience totale. Quand je mourrai, moi aussi, je serai dévoré, ne serait-ce que par les bactéries, et je participerai, pour une part bien plus réduite, à ce tout. Mais un jour viendra où des fragments de moi deviendront des fragments d'autres êtres humains, de quantité d'autres humains.
une sorte de transmigration des âmes, observa Pellerate.
De quoi, Pell ?
Je parle d'un vieux mythe très répandu sur certains mondes.
Ah, je ne connaissais pas. Il faudra m'en parler à l'occasion.
Mais, dit Trévise, votre conscience individuelle, ce je ne sais quoi qui fait que vous êtes d'homme, cette conscience ne sera plus jamais réassemblée ?
Non. Bien sûr que non. Mais quelle importance !
Je serai toujours partie intégrante de Gaïa, et cela seul importe. Il y a parmi nous des mystiques qui se demandent si l'on ne devrait pas prendre des mesures pour développer la mémoire collective des existences passées. Mais le sentiment de Gaïa est que c'est irréalisable dans la pratique, et que ce ne serait d'ailleurs d'aucune utilité. Au contraire, cela ne ferait que brouiller notre conscience du présent.
Bien sûr que les conditions changent et le sentiment de Gaïa pourrait changer également. Mais je ne vois aucune chance que cette évolution se produise dans un avenir prévisible.
Pourquoi devez-vous mourir, d'homme ? Demanda Trévise. Regardez-vous. Avec vos 90 ans, la conscience collective ne pourrait-elle pas...
Pour la première fois, d'homme fronça les sourcils.
« Jamais, » dit-il. « Ma contribution doit avoir une limite. Chaque nouvel individu est un nouveau brassage de molécules et de gènes, autant de talents neufs, de capacités neuves, de contributions neuves pour Gaïa. Ces individus nous sont nécessaires et le seul moyen de les avoir, c'est de laisser la place. J'ai fait plus que la plupart. Mais même moi, j'ai ma limite, et cette limite approche. Il n'y a pas plus de désir de vivre au-delà de son temps que de mourir avant.
Et puis, comme s'il s'était rendu compte de la tonalité sombre qu'il venait de donner à la soirée, il se leva et étendit les bras vers ses invités.
« Allons, Trêve, Pell. Passons dans mon studio, où je pourrai vous montrer quelques-unes de mes créations artistiques. J'espère que vous ne tiendrez pas rigueur à un vieillard de ses petites vanités. »
Il les conduisit dans une autre pièce où se trouvaient disposées sur une petite table ronde plusieurs paires de lentilles fumées.
« Ce que vous voyez là, » expliqua Dom, ce sont des participations de ma conception. Sans être un des maîtres de cet art, je me suis spécialisé dans les inanimés, un domaine qui intéresse peu les maîtres.
« Puis-je en prendre une ?» demanda Pellerate. « Sont-elles fragiles ?»«
Non, non. Vous pouvez les jeter par terre si vous voulez, ou plutôt, il vaudrait mieux pas. » Le choc pourrait altérer la précision de la vision.
Comment est-ce que ça marche, Dom ?
Vous n'avez qu'à les poser sur les yeux. Elles adhèrent toutes seules, elles ne transmettent pas la lumière. Tout au contraire, elles obscurcissent toute lumière qui pourrait vous distraire, bien que les sensations continuent d'atteindre votre cerveau via le nerf optique. La participation agit principalement au niveau de la conscience, en l'aiguisant, ce qui vous permet de participer à de nouvelles facettes de Gaïa. En d'autres termes, si vous regardez ce mur, vous allez pouvoir le vivre tel qu'il se ressent.
« Fascinant, » murmura Pellerate. « Puis-je essayer ?»«
Certainement, Pell. Vous n'avez qu'à en prendre une au hasard. Chacune est une construction différente qui vous présentera le mur ou tout autre objet inanimé que vous pourrez contempler sous un aspect différent de sa propre conscience. »
Pellerate plaça sur ses yeux une des paires de lentilles. Elles adhérèrent immédiatement. Il sursauta à ce contact, puis demeura immobile un long moment.
Quand vous en aurez assez, indiqua Dom, placez simplement les mains de chaque côté de la participation et pressez vers l'intérieur. Elle se détachera tout de suite. C'est ce que fit Pellerat. Il cligna rapidement des yeux, puis se frotta les paupières. Qu'avez-vous ressenti ? Demanda Dom.
C'est dur à expliquer. Le mur semblait clignoter et scintiller, et par instants il avait l'air de se liquéfier. On y distinguait comme des espèces de nervures et de symétries changeantes. Je suis désolé, Dom, mais je n'ai pas trouvé ça très attrayant.
Dom soupira. Oh, vous ne participez pas à Gaïa, si bien que vous ne pouvez pas voir ce que je vois. Je le craignais un peu. Tant pis. Mais je peux vous assurer que si ces participations sont principalement appréciées pour leur valeur esthétique, elles ont également leur intérêt pratique. Un mur heureux est un mur qui dure, un mur pratique, un mur utile.
Un mur heureux ? Trévise esquissa un sourire.
Il existe au niveau du mur une vague sensation que l'on peut assimiler à ce que le mot heureux peut évoquer pour nous. Un mur est heureux lorsqu'il est bien conçu, lorsqu'il repose fermement sur ses fondations, lorsque ses symétries équilibrent ses divers éléments sans induire de contraintes désagréables. On peut certes élaborer une conception valable à partir des principes mathématiques de la mécanique, mais l'emploi judicieux d'une participation peut permettre de l'affiner virtuellement à l'échelle atomique. Aucun sculpteur ne peut réaliser une œuvre de première qualité ici sur Gaïa sans l'aide d'une bonne participation, et celles que je produis à cet usage précis sont jugées excellentes, bien que je sois mal placé pour le dire.
Les participations animées qui ne sont pas mon domaine.
Et Dom était parti avec ce genre d'exaltation auquel on peut s'attendre de qui chevauche son dada.
Ces participations procurent, par analogie, une expérience directe de l'équilibre écologique. L'équilibre écologique de Gaïa est assez simple, comme sur toutes les planètes. Mais ici, au moins, avons-nous l'espoir de le rendre plus complexe et par là d'enrichir considérablement la conscience globale.
Trévise éleva la main pour arrêter Pellerat et le fit taire d'un geste. Comment savez-vous qu'une planète est capable de supporter un équilibre écologique plus complexe, alors que toutes les autres ont une écologie simple ?
Ah ! Réagit Dom, clignant malicieusement des yeux. On veut mettre à l'épreuve le vieux bonhomme. Vous savez aussi bien que moi que le berceau de l'humanité, la Terre, possédait une écologie formidablement complexe. C'est seulement les planètes secondaires dérivées qui sont simples.
Pellerat ne pouvait pas rester muet plus longtemps.
Mais c'est là le problème auquel j'ai consacré toute ma vie. Pourquoi la Terre fut-elle la seule à abriter une écologie complexe ? Qu'est-ce qui la distinguait des autres mondes ? Pourquoi des millions et des millions d'autres planètes dans la galaxie, des planètes susceptibles d'accueillir la vie, n'abritent-elles qu'une végétation indifférenciée, ainsi que quelques petits animaux dépourvus d'intelligence ?
Nous avons un conte à ce sujet, dit Dom. Une fable, peut-être. Je ne garantirai pas son authenticité. En fait, pour tout dire, ça ressemble à du roman.
Ce fut le moment que choisit Joie, qui n'avait pas participé au dîner, pour faire son entrée, souriant à Pellerat. Elle portait une tunique argentée, très courte. Pellerat se leva aussitôt.
« Je pensais que vous nous aviez quittés. »
« Pas du tout. J'avais des rapports à faire, du travail à terminer. Puis-je me joindre à vous, maintenant, Dom ?»
Dom s'était levé lui aussi, même si Trévise était demeuré assis.
« Vous êtes absolument bienvenu. » Et je dois dire que vous comblez de plaisir ces yeux âgés.
C'est pour vous combler de plaisir que j'ai passé cette tunique.
Pell est au-dessus de ces choses, et Trève déteste ça.
Si vous me croyez au-dessus de telles choses, Joie, intervint Pellerat, vous risquez d'avoir un jour une surprise.
Quelle délicieuse surprise ce serait,
dit Joie en s'asseyant. Les deux hommes se rassirent.
Mais je ne veux pas vous interrompre.
J'allais raconter à nos invités l'histoire de l'éternité, expliqua Dom. Pour bien la comprendre, il vous faut d'abord imaginer qu'il peut exister quantité d'univers différents, virtuellement une infinité. Chaque événement possible peut se produire ou non, ou se produire de telle manière ou de telle autre, et à chaque fois, de ce nombre incalculable de possibilités, découleront des enchaînements futurs d'événements distincts, du moins dans une certaine mesure. Joie aurait pu ne pas arriver à l'instant, ou elle aurait pu nous avoir rejoints un peu plus tôt, ou beaucoup plus tôt, ou, tout en étant bienvenue maintenant, elle aurait pu porter une autre tunique, ou, portant cette même tunique, elle aurait pu ne pas adresser au vieillard que nous sommes ce sourire coquin qui fait tout son charme. Avec chacun de ces événements, ou avec chacune des très nombreuses alternatives possibles pour ce seul événement, l'univers aurait pris par la suite une voie différente, et ainsi de suite, obliquant à chaque nouvelle variante de chaque événement nouveau, si minime soit-il.
Trévise s'agita impatiemment. Je crois que c'est une spéculation courante dans le cadre de la mécanique quantique, et qui remonte à l'Antiquité, qui plus est.
Ah, vous en avez entendu parler. Mais poursuivons. Imaginez que les hommes soient capables de figer toutes ces infinités d'univers potentiels pour sauter de l'un à l'autre à leur guise et choisir ainsi lequel devrait devenir réel, quoi que puisse signifier pareil terme dans ce contexte.
Je vous écoute, dit Trévise, et je parviens même à imaginer le concept que vous me décrivez, mais je n'arrive toujours pas à me convaincre que rien de tout cela puisse arriver.
Pas plus que moi, dans l'ensemble. Ce qui est la raison pour laquelle j'ai bien dit que tout cela ressemblait fort à une fable. Quoi qu'il en soit, cette fable établit l'existence d'êtres capables de sortir du temps afin d'examiner l'infinité des courants de réalité potentielle. Ces gens étaient appelés les éternels, et lorsqu'ils étaient hors du temps, ils se trouvaient, disait-on, dans l'éternité. Leur mission était de choisir une réalité qui convint au mieux à l'humanité. Ils la modifiaient sans cesse. Et là, le récit entre dans une quantité de détails, car je dois vous dire qu'il a été écrit sous la forme d'une épopée, d'une longueur inaccoutumée. Bref, au bout du compte, ils découvrirent enfin, s'il faut en croire le texte, un univers dans lequel la Terre était la seule planète de toute la galaxie où l'on pouvait trouver un système écologique complexe en même temps qu'assister au développement d'une espèce intelligente capable d'élaborer une technologie de haut niveau. Cela, décidèrent-ils, était la situation dans laquelle l'humanité se trouverait le plus en sécurité. Ils figèrent donc ce flot d'événements définissant ainsi la réalité, puis mirent un terme à leurs opérations. Depuis, nous vivons dans une galaxie uniquement occupée par des êtres humains et dans une large mesure par les plantes, les animaux et la vie microscopique qu'ils emportent avec eux, volontairement ou non, de planète en planète, et qui généralement finissent par submerger toute vie indigène. Quelque part dans les brumes de la probabilité, il y a d'autres réalités dans lesquelles la galaxie est peuplée de quantités d'intelligence différentes, mais elles nous demeurent inaccessibles. Pour nous, dans notre réalité, nous sommes seuls. À partir de chaque action, de chaque événement de notre réalité, il y a de nombreuses branches qui naissent avec, pour chaque cas précis, une seule pour être une continuation, si bien qu'il existe des quantités phénoménales d'univers potentiel, une infinité peut-être, dérivée d'une autre, mais qu'on peut présumer tous semblables en ce qu'ils contiennent la galaxie à intelligence unique dans laquelle nous vivons. Ou peut-être devrais-je plutôt dire que tous, sauf un pourcentage dérisoire, sont semblables en ce sens, car il est toujours dangereux d'établir des règles lorsque les possibilités avoisinent l'infini.
Il s'arrêta, esquissa un haussement d'épaule et ajouta
« Du moins, telle est l'histoire. Elle date d'avant la fondation de Gaïa. Je ne jurerai pas de son authenticité. »